Processus. Bonjour Charlotte. Alors pourquoi il marche pas mon truc? Voilà.
Hello. Paf. Bonjour à tous.
Monsieur Dagron, bonjour.
Comment ça va?
Bonjour.
Avoue que je t'ai fait peur.
Pourquoi?
Parce qu'on s'était pas parlé avant.
Non, 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 alors, franchement, non, j'étais relax sur le sujet. En plus, j'ai vu que tu avais déjà rodé la présentation, donc je ne fais absolument aucun souci.
D'accord, ok.
Je préfère même ça, tu vois, finalement.
Même pas peur.
Bon, tout va bien?
Bah écoute, pas mal, pas mal. Je suis un peu dans une séance webinaire. On a fait hier un truc avec Abraxio. Je vais en parler sur le Slack de la DIRA parce qu'on a fait un truc ensemble. Parce que.
C'est super, ça.
Comment?
C'est top, c'est top.
Bah ouais, c'est très bien. Ouais, on fait des trucs ensemble. Et grâce à la DIRA.
Oui, alors, et vous étiez rencontré quand?
Parce que Émilie fait
Ah, mais
partie
oui, au
du
marketing, en
marketing.
fait. Mais
Voilà.
oui, effectivement.
Et donc voilà. Hier, on a fait un webinaire où on avait une trentaine de personnes autour de positionner la DSI, communiquer le positionnement. Donc, ils étaient plutôt contents, manifestement. Voilà. Et ce matin, café virtuel. Et derrière, j'enchaîne groupe marketing. Donc, poum, poum, poum.
Là,
Voilà.
total. Bon, bah, écoute, c'est cool. C'est cool. Et le format d'hier, là, vous étiez en. Donc, oui, c'était webinaire, je suis bête, tu m'as dit.
Ouais, c'était webinaire hier et on fait en présent. Le groupe marketing ce matin, on le fait en présentiel. Alors c'est
Ouais.
amusant, c'est intéressant de voir les stats, hein, parce que j'ai 5 personnes en présentiel et 5 en distanciel.
Ouais.
Vois,
Ah, ouais.
et faut que je regarde si les gens qui sont en distanciel, enfin, faut que je regarde où ils sont. Est-ce que c'est un sujet géographique ou est-ce que c'est un sujet de temps?
Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que dans ton groupe, tu en as quand même quelques-uns qui ne sont pas forcément à Lyon. Donc, ça peut
Ouais.
s'expliquer.
Grenoble, ils ne sont pas là aujourd'hui, des gens du. Mais voilà, donc écoute, je.
Mais ce qui est un peu dommage, c'est que vous allez au Web 612 et ça, c'est super intéressant quand même, hein, à
Bah
voir.
ouais, c'est sympa. Et puis en plus, j'y suis là parce que vu que je devais ensuite enchaîner à 10 h, Émilie m'a réservé une salle. Donc je suis au Web 612. Il y a des terrasses, il y a des. Le café est très bon. Enfin, vraiment, c'est plein centre quand même. Donc si tu veux.
Ouais,
Difficilement faire mieux en termes de localisation.
ouais c'est sûr. Puis tu es quand même entouré de startups dont pas mal. Enfin, le Hub 612 a quand même une des particularités parmi les incubateurs ou accélérateurs lyonnais. Ils sont bons, ils attirent des super talents. Donc, des belles boîtes
Et
autour.
donc, voilà, et ce matin, ils m'accueillent moi. Donc, comme quoi, ils n'accueillent pas que des super talents, ils accueillent aussi des vieux mecs qui.
Même ils sont peut-être pas au courant. Bonjour.
Ça va jusqu'à
Bonjour,
maintenant, ils n'ont
Charlotte.
rien vu. Bonjour, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que j'ai le droit, parce qu'on discute, on discute. J'ai le droit de partager l'écran, ouais.
À mon avis, on t'entend sans problème. Et j'ai Alain qui est avec moi. Bonjour.
Bonjour Alain,
Voilà.
vous êtes un peu seuls tous les deux.
Donc, on est en train d'abolir le concept du café virtuel,
Absolument,
purement
c'est un
virtuel.
pionnier.
Voilà.
Je fais le café virtuel en présentiel.
Exactement. C'est très bien. Ça, c'est disruptif. Eh bien,
C'est du. Ouais, t'as raison. Alors, je vais tenter de ne pas être trahi par la technique. Il me faudrait 4 écrans, en fait, mais on va faire avec. J'en ai 2 déjà, c'est pas mal. Tu as des choses à présenter avant ou pas du tout
je pense que je vais juste présenter une seule slide.
Ok, ça marche. Donc, je te laisse. Je voulais faire.
Non, je ne vais pas vous faire la présentation de l'Assemblée générale de ce soir. Ce
Si tu
serait
veux.
trahir les secrets. Mais hop. Alors, je vais dupliquer là. Vous voyez tout mon écran ou juste l'écran de présentateur?
On voit ton écran.
D'accord. Bon, de toute façon, j'en ai pas pour l'instant.
Non, mais il n'y a pas de. Tu es chez toi, donc tu prends le temps que tu. Ah, c'est bien Google Cloud. J'ai assisté à la présentation par Thales de. de l'offre Google Cloud. Et c'est assez, enfin, je trouve que c'est intéressant. Je ne fais pas de pub pour Thales, mais je trouve que c'est assez intéressant.
De l'offre cloud, moi je trouve que toutes ces initiatives de cloud souverain menées par des acteurs qui, à la base, sont souverains, mais plutôt aux États-Unis, sont quand même des initiatives ouais, à regarder quand même de très très près.
Bah, d'autant plus qu'il y avait eu des grandes discussions autour du prix. Et les prix qui étaient annoncés, c'était un surcoût qui était, je trouvais, assez faible, c'était de l'ordre de 15%. Et donc, le fait d'avoir du Google pour 15% de plus localisé en France, je trouve que, enfin, je sais pas, ce sera un débat à avoir, mais ça me semble raisonnable, en fait.
On va en parler avec Alain. Non, il faut regarder, ça pourrait d'ailleurs être un des thèmes du groupe HIT, pour le coup, de regarder les offres cloud souverain quand elles seront toutes...
De se dire en fait qu'est-ce qu'on s'autorise, en fait qu'est-ce qu'on accepte comme, et la discussion que j'avais avec Thales, c'était qu'il disait 20-25% ça fait fuir, donc il faut être en dessous de 20, et donc ils annonçaient 15, ils annonçaient hein, maintenant faut regarder ce qu'ils vont mettre dans les catalogues.
Ouais, donc à suivre. Donc, effectivement, on est partenaire dans le sens où on relaie cet événement-là qui a lieu, d'ailleurs je n'ai pas mis le lieu, c'est bête, au château de Montchat. Bon, à la limite, je vais démarrer, je n'ai pas regardé, on est combien à peu près? Comme ça, moi je prends pas trop de temps pour les annonces légales. Bon, ok, parfait, on a une vingtaine de personnes. Je vais démarrer tout de suite, et puis comme ça, toi, le temps que je raconte toutes ces actualités, tu auras sans doute un peu plus de mots. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue pour cette session de café virtuel. Ce que je vous propose, justement, on va prendre simplement 2 minutes pour regarder les actualités de la DIRA et les événements. Alors, en 2 mots, donc on a 2 dispositifs. Dont on reparlera d'ailleurs ce soir au moment de notre assemblée générale. Il y en a un qui s'appelle Invest in Digital People, et si vous avez suivi peut-être un petit peu l'actualité de l'association, c'est un dispositif qui est tout à fait nouveau, et on démarre là 2 promotions de 15 personnes qui vont être formées d'une part sur les systèmes et réseaux, d'autre part sur le développement full stack. Ces 2 promotions vont démarrer le 4 juillet, vont donc être pré-embauchés par les entreprises. Hein. Donc, on a affaire à des gens qui sont des demandeurs d'emploi, qui ont des profils variés. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des connaisseurs de l'informatique ou pas, etc. Le tout, en fait, c'est que cette formation de 3 mois et quelques, 57 jours, puisse donc leur permettre de développer des compétences ou rajouter un vernis sur leurs compétences actuelles. Et surtout, ça permet aussi aux entreprises de pouvoir recruter des talents, ce qui aujourd'hui est extrêmement compliqué et extrêmement rare. J'imagine qu'autour de la table, il y a certains qui recrutent et qui ont des difficultés, donc vous pourrez vous reconnaître. Voilà. Donc, on démarre avec ces 2 sessions de formation et voilà. Donc, on espère que tout se passe bien. C'est pour nous un premier essai. Si l'essai est confirmé et satisfaisant, on poursuivra. On fera d'autres formations, peut-être tous les mois, on verra. On ne va pas être trop ambitieux ou trop préjugé pour l'instant. Mais en tout cas, on espère que ça puisse bien se présenter. InnovaDIRA, donc, c'est notre autre dispositif en faveur des startups et surtout des rencontres entre startups et entreprises adhérentes qui, la plupart du temps, à la DIRA, sont des entreprises plutôt matures. Hein. On a mis en place ce dispositif-là. C'est Charlotte, bourgeois, là, qui est connectée et qui occupe 50% de son temps sur cette partie-là. Et donc, qui a organisé notamment une première soirée qui a eu lieu le 30 mai et qui a été vraiment très, très chouette avec 8 pitchs de start-up et un maximum de rencontres. Et vous allez recevoir de sa part très bientôt aussi une newsletter. Donc, tous les adhérents de la DIRA vont recevoir cette première newsletter. Ceux qui sont évidemment intéressés par le sujet pourront s'y abonner. Et ceux qui ne le seront pas, ne seront pas abonnés. Et ce sera tant pis pour eux. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des belles initiatives et ça démarre très, très bien. Voilà, donc rendez-vous. On va organiser des soirées toutes les 6 à 8 semaines désormais sur ce thème de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Les quelques dates à retenir, ce soir, rendez-vous donc à partir de 18h30 à l'Assemblée Générale, donc sur le thème du management. Effectivement, une partie AG qui est d'ailleurs... est assez extraordinaire. et aussi ordinaire. Voilà. Donc, vous verrez, il y a quelques informations quand même assez importantes à passer. Et puis ensuite, voilà, on aura une conférence et un concert de jazz. Sinon, nous sommes, donc, comme on le disait tout de suite avec Jean-Luc, partenaire d'un événement Google Cloud qui a lieu le 30 juin dans la journée au Château de Montchat. Le soir, on se retrouve pour une soirée. Alors, c'est uniquement pour les entreprises utilisatrices que l'on organise avec Sully Group. Et c'est sur les interactions homme-machine, donc un sujet purement UX, où on va avoir donc, un Jordan Navarro qui est chercheur en sciences cognitives. Et donc, il va nous parler des interactions en machine. Et puis, on a aussi le retour d'expérience d'une société qui s'appelle Martin Bélézou et qui aujourd'hui est en train de reconcevoir complètement son ERP, mais avec une approche assez différente d'habitude. Hein. Ce n'est pas un projet technique, c'est un projet UX, c'est un projet utilisateur. Voilà. Et puis, enfin, donc on organise aussi une visite pour les différents groupes DSI de la DIRA et le groupe IoT qui est principalement concerné. Une visite de Somfy, ça aura lieu le 6 juillet matin. Donc, c'est une visite qui se déroulera à Cluses. Et donc, pour ceux qui sont concernés et ceux qui souhaitent, on organise des covoiturages. Voilà, je te laisse la main, Jean-Luc, dans un instant. Et simplement pour t'introduire, donc Jean-Luc est notre fameux animateur du groupe Marketing Digital et Relations Clients, qu'il co-anime d'ailleurs avec Hervé. Et donc, ils ont rendez-vous d'ailleurs dans pas très très longtemps, dans 1 heure et quart à peu près. Et au-delà de ça, Jean-Luc, il se trouve qu'il a un métier. Il travaille pour une société qui s'appelle Talisker. Et Talisker a mené donc une étude extrêmement intéressante sur les innovations technologiques et qui concerne donc évidemment la partie IT digitale. Voilà, donc Jean-Luc, je te laisse la main pour nous restituer donc le contenu de cette étude-là. À toi de jouer.
Super. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, c'est tout bon.
Ok, super. Merci pour l'introduction. Effectivement, on a en fin 2000, mi-2021, on s'est posé une question avec un certain nombre de nos clients qui était, ok, on parle d'innovation, de techno innovante, mais en fait, c'est quoi une techno innovante? Dès qu'on sort un peu du hype cycle de Gartner hein, qui nous explique que des technos d'impression d'une tour de 28 étages en 3D, d'impression 3D d'une tour de 28 étages, ce sera possible dans 25 ans. En fait, la vraie question, c'est quoi la réalité de nos clients DSI sur le sujet? Donc, c'est ça que je vous restitue. Alors, je vais vous le restituer, je vais éviter de vous bombarder de chiffres parce qu'on va mourir. Ce que je vous demande, si vous le voulez bien, c'est d'avoir à disposition un navigateur pour pouvoir faire un petit quiz dans les minutes qui viennent et je vous expliquerai comment. C'est très simple, ne vous inquiétez pas. Et ça n'a rien d'engageant, c'est juste un petit quiz pour animer la session. L'idée, c'est plutôt d'engager avec vous une discussion autour de « et chez vous, c'est comment ?» Et bien sûr, cette étude est disponible en téléchargement et je vais vous mettre le lien dans le chat que je cherche parce que je l'ai perdu dans mes nombreuses fenêtres. Il n'est pas ici, pardon. Je vais forcément le retrouver un moment. Ah non, je ne vois pas où est le chat.
Tu ne retrouves plus ta fenêtre.
Bon. Peu importe, je vais vous le remettre. Bon, parce qu'il est vu qu'il est compliqué. Je vous le remettre. Bon, voilà. Je vous donne alors, quelques informations d'abord sur pour ceux qui ne connaissent pas Talisker, enfin qui ne connaissent de Talisker que le whisky. Pourquoi ça ne marche pas? Oh. Talisker est un cabinet de conseil. À 90%, nos clients sont des DSI. Et notre métier, en fait, c'est d'aider les clients dans la réalisation de leurs ambitions. Donc, en fait, ce qu'on fait, je vous l'exprime comme ça en trois pavés, parce que ça évite de dire quelles sont nos offres. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on développe de la puissance, parce que très souvent, on a un sujet de puissance dans les DSI, et on retrouve ça dans le positionnement, on retrouve ça dans le à quoi ça sert une DSI. Donc, on attaque des sujets de marketing. On travaille également sur comment est-ce qu'on franchit un cap. Que ce soit un cap d'organisation, de fonctionnement, d'agilité. Et là aussi, on joue beaucoup sur le collectif. Et puis, on travaille beaucoup sur l'écosystème des DSI. Et l'écosystème des DSI, c'est qui je suis au milieu de mes ESN, mes clients, ma direction générale, mes fournisseurs, etc. et comment est-ce que, notamment, je développe de l'innovation comme ça. Voilà. Je n'en dis pas plus sur le cabinet. Et en quelques chiffres, on est 35 et on fait 5 millions de chiffre d'affaires. On est basé à Paris et à Lyon et partout où nos clients nous emmènent. Voilà, on fait aussi de la formation, mais beaucoup appuyé sur on n'est pas une boîte de formation, beaucoup appuyé sur notre expérience. Alors, on parle de technologie innovante. Donc, en fait, comme je vous le disais, le sujet, c'est comment est-ce que les entreprises se saisissent de l'offre technologique dans la vraie vie? C'est quoi une technologie innovante? Ça, déjà, on a eu quelques surprises. Et puis ensuite, il y a pourquoi et comment elles sont adoptées dans les entreprises, dans les projets. Pour ça, on a fait deux choses. On a fait une enquête très quanti avec des questions donc sous forme de questionnaires. Et puis, on a interviewé des managers. Et les managers, c'était des DSI, des patrons d'innovation, des patrons du digital. Donc, c'est ça notre population. Donc, on a bien deux éclairages. Un éclairage très quantitatif avec vous avez combien de projets, qu'est-ce qui est innovant chez vous, etc. Et ça, on a eu 140 boîtes qui ont répondu. Et puis, des managers avec lesquels on a creusé des sujets et notamment on a analysé des projets parce que ce qui nous intéressait, c'était de creuser dans quelques projets. Et donc, à la question, c'est quoi une technologie innovante? Il y a plusieurs choses qui sortent. D'abord, on peut innover sans technologie. C'est-à-dire qu'il y a une partie des sujets d'innovation qui sont des innovations, notamment des innovations pratiques, qui ne sont pas liées à une techno. L'agilité n'est pas une innovation technologique. Et pour autant, pour beaucoup de boîtes, ça reste encore une innovation. Bon. Deuxième chose, il y a un côté assez compliqué à qualifier une innovation parce que le tourbillon des technologies fait que à la fois ça va très vite et à la fois pas tant que ça, quoi. Ça fait quand même 10 ou 15 ans qu'on parle du cloud. Est-ce que c'est toujours une innovation ou pas? Ce sera intéressant, enfin, c'est intéressant aussi d'avoir cette réflexion. Et puis il y a aussi des tas de technologies ou de méthodes qui trouvent une application différente. On parle beaucoup d'agilité, de Kanban, de management visuel. Bon, c'est juste une déclinaison de ce qu'a fait Toyota dans les années 70. Donc, en fait, on a juste appliqué à la tech des méthodes qui viennent beaucoup de l'industrie. C'est souvent le cas dans la tech. Et puis, en fait, il y a la conclusion à laquelle on arrive avec les interviews qu'on a faites, c'est qu'en fait, il n'y a pas de technologie innovante, il y a des projets innovants. Et avec quelquefois des technologies, mais pas toujours. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous avez un navigateur à côté de vous, ça peut être un téléphone, il n'y a pas besoin d'un gros affichage. Vous pouvez aller sur menti.com et vous allez taper ce code qui est en fait le code d'un sondage. Et le sondage que je vous donne là, pardon. J'ai juste un problème pour vous afficher. Je suis sur un écran que je ne connais pas. Donc, pendant ce temps-là, si vous arrivez à vous connecter, c'est top. Pourquoi est-ce que la CIA... Donc, voilà. Donc, les trois technologies qui, à votre avis, ont été citées le plus souvent comme innovantes. Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Donc, je vous laisse. C'est intéressant, blockchain.
Quantique, j'en profite. Hein, on va bientôt avoir le replay de notre événement qui a eu lieu sur le Quantique il y a quelques semaines.
Ah, c'est bien
Vous allez
ça.
recevoir aussi des informations et vous pouvez le suivre ou le réécouter sur les podcasts bientôt.
Donc, c'est blockchain qui tient la corde. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Surtout si on ajoute les deux blockchains avec et sans espèce. Pardon. Pardon, j'ai... C'est lourd, hein. Donc, l'intelligence artificielle, effectivement, c'est un gros sujet. Le métaverse, un peu moins. Le deep learning, on le retrouve généralement dans l'intelligence artificielle. Le Web 3 a été très peu cité. Alors, peut-être parce que parmi les clients interrogés, il y a eu à peu près tous les secteurs et à peu près toutes les tailles. En tout cas, on a essayé de répartir le mieux possible. Et en fait, vous allez voir que la blockchain, c'est un vrai bon sujet. Et c'est un bon sujet, mais qui ne se trouve pas. Voilà. Et c'est drôle, ça. Je pense que tout le monde a à peu près voté, il y a 25 votants. Donc, ce qui sort chez vous, c'est la blockchain, en gros. En gros, il y a le quantique, l'intelligence artificielle, et ça peut être un vrai... ça va être un vrai, effectivement un vrai sujet. Le cloud, un peu, on va voir qu'il y a un peu de surprise sur le cloud. Donc, effectivement, en fait, ce qui sort en premier chez nos clients, c'est le stockage de données dans lequel on trouve le cloud, le edge computing, etc. Et en fait, pourquoi est-ce que ça sort en premier? C'est que c'est simplement c'est l'innovation qui permet à toutes les autres de fonctionner. Donc, en fait, elle porte mécaniquement les autres innovations. Et donc, ça veut dire que ça oblige nos clients à se mettre à niveau sur les environnements de cloud. Et donc, en fait, c'est ce qui héberge les autres environnements. Donc, c'est ce qui est cité en premier. Ensuite, à l'évidence, l'intelligence artificielle. Et puis, on va trouver la robotique dans laquelle on a mis le RPA, mais aussi des chatbots et puis des drones. Et puis ensuite, la réalité augmentée, l'Internet des objets, la blockchain qui arrive un peu tard, ou un peu loin dans la série. Et on va voir pourquoi, en fait, elle a juste du mal, la blockchain a du mal à trouver sa valeur. Voilà. Donc vous étiez assez bien, si ce n'est que sur blockchain, vous avez une longueur d'avance manifestement sur le panel. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est à votre avis, enfin vous, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre vraiment dans votre entreprise? Au-delà de dire c'est innovant, le métaverse, le Web 3, etc. Qu'est-ce que vous avez vraiment mis en œuvre? Et là, il faut que j'avance sur le sujet pour que vous ayez la deuxième série de votes. Voilà. Donc, parmi toutes celles qui ont été citées par le panel, vous, qu'est-ce que vous avez vraiment mis en œuvre? Parce qu'en fait, il y a une différence entre dire « ça, c'est une technologie innovante » et « je l'ai bien mis en œuvre ». En tout cas, quand on dit « mis en œuvre », très souvent, on s'y intéresse, on poque, on fait des choses comme ça. Donc, normalement, on va sortir du cloud à mort sur ce sujet-là. Les plus industriels d'entre vous vont sortir de l'IoT. Tiens, c'est rigolo, hein. La manière dont ça se... Et voyez, on voit déjà ça se détache de manière assez intéressante, c'est que la blockchain qui était très citée, qui était la plus citée comme techno innovante, elle est très peu mise en œuvre. Et c'est effectivement...
Je me permets, on a fait un exercice qui ressemble un petit peu dans le cadre du lancement d'un nouveau groupe de travail qui s'appelle Veille Technologique. Ouais. Et justement, on a choisi ensemble d'aborder le sujet de la blockchain pour les prochaines fois, puisque on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont très envie de s'y intéresser, de s'y pencher. Mais aujourd'hui, avec peu de cas d'usage, on va dire, en tout cas peu de réalité.
En fait, je déflore un peu le sujet, c'est que la blockchain est une technologie qui... en fait, c'est une technologie qui est très liée au Web3. C'est en fait, c'est comment je décentralise et comment je sors des gros acteurs qui maîtrisent tout. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à y trouver de valeur. Les banques n'y trouvent pas de valeur. Les assurances n'y trouvent pas de valeur. Moi, je travaille, par exemple, en ce moment pour une entreprise de spiritueux. Alors, on est dans le luxe. Donc, vu qu'on est dans le luxe, on a un peu les moyens de faire des choses. Et par exemple, on est capable d'attester sur c'est des spiritueux. On est capable d'attester le circuit d'une bouteille en disant c'est tel jus dans telle barrique pendant tant de temps. Et donc, ça donne une valeur à l'originalité de la bouteille avec une attestation d'originalité, quoi. Voilà. Mais objectivement, le cadre est quand même extrêmement restreint. Et c'est comme les NFT, voilà, ça se cherche un peu. On a vu le marché de l'art qui a flambé sur ce sujet-là. Le moindre gribouillis est en vente à 3 000 $ et ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, en fait, on a un vrai problème à trouver de la valeur à la blockchain. C'est-à-dire, tout le monde dit super. Si on était capable de trouver un système de confiance décentralisé, ce serait top. Le problème, c'est qui s'en empare. Et en tout cas, comment est-ce qu'on l'utilise et comment c'est mis à disposition de tout le monde? Il y a peu de cas d'usage, en fait. Donc, ça apparaît vraiment comme une techno innovante avec des cas d'usage qui sont assez faibles. Donc, je pense que vous êtes à peu près dans le panel de nos clients là-dessus, puisque, voilà, ce qui m'aide vraiment, c'est le stockage de données, l'intelligence artificielle, la robotique. Donc, vous êtes assez conforme à ce qu'ils font. Et on a vraiment une hiérarchie qui est conservée par rapport à ce qu'ils font, eux. Ce qui est intéressant, c'est que sur 4 personnes qui citent une technologie comme innovante, il n'y en a qu'une seule qui l'a mise en œuvre. Donc, il y a quand même 25% de gens qui mettent en œuvre les technologies qu'ils considèrent comme innovantes, ce qui est pas mal, quoi. Voilà. Et la blockchain, chez nous, zéro, enfin dans le panel, on a eu zéro mise en œuvre parce que pas de valeur, pas de cas d'usage, en fait. Pas de cas d'usage. Ou alors des cas d'usage qui sont imaginés, mais qui ne sont pas à la main d'un acteur d'un secteur. Donc, on peut imaginer que les banques pourraient mettre en œuvre la blockchain, mais vu que chacune va faire la sienne, du coup, on sort pas du système et on va rester dans ce même fonctionnement. Voilà, donc on reste sur un sujet de stockage de données, et ça, pour le coup, tout le monde a du cloud, donc ça me va à peu près. L'IA, on va voir comment, parce que c'est la moitié des projets innovants pour nous, donc ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'ils sont mis en œuvre. Voilà. Et il y a une autre question qu'on s'est posée, c'est OK, il y a des technos innovantes ou des projets innovants. La question, c'est par où ils arrivent? Est-ce qu'ils arrivent par le... Pourquoi j'ai perdu mon truc? Est-ce qu'ils arrivent par le... Pardon, je... Est-ce qu'ils arrivent par le métier? C'est-à-dire, c'est l'usage qui va tirer la techno, ou est-ce que c'est la techno qui pousse l'usage? Donc, c'est ce qu'on a appelé techno push ou market pull. Est-ce que c'est le marché qui tire, et donc la techno répond, ou le projet répond à un besoin métier, ou est-ce qu'au contraire, c'est... Par voie de conséquence, la DSI qui dit, tiens, j'ai une techno, je suis sûr que ça pourrait répondre à des trucs chez nous. C'est le dernier vote, hein, pour ceux qui en ont marre des élections. Et... Voilà. C'est le dernier vote. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça va répondre directement au sujet de positionnement de la DSI dans l'entreprise. Et on a fait hier avec Abraxio un sujet sur le business partner, enfin sur le positionnement de la DSI. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un business partner? Et on est venu sur ces sujets d'où viennent les innovations. Bon, et là encore, je pense que vous allez être à peu près dans le, vous allez être à peu près dans le panel. Nous sommes des gens normaux. Parce qu'en fait, à 60%, ça vient des directions métiers, à 30%, ça vient de la DSI, et à 10%, ça vient de l'externe. Donc, l'origine du projet, en fait, il est quand même plutôt market pull que techno push. Et donc, en fait, on est bien dans un sujet de j'exprime un besoin par les métiers, par l'innovation, et la DSI y répond en mettant en œuvre des solutions. Donc, on source des technos par rapport à un cas d'usage. Et je trouve que c'est intéressant parce que il y a quand même des tas de boîtes qui sont des grands succès qui ont fonctionné à l'envers. Google n'est pas un appel du marché. L'iPad n'a jamais été demandé par un client. Enfin, l'iPad, c'est un pur techno-push. L'iPod aussi, d'ailleurs, c'est un pur techno-push. Et je trouve que c'est intéressant. On a eu de grands débats sur des présentations similaires qui ont été faites. Avec des, on pourra en parler tout à l'heure, parce que je vous poserai la question. C'est, est-ce que c'est normal? Et ça, en fait, ça interroge directement le rôle de la DSI dans l'entreprise. Est-ce que le job de la DSI, c'est de répondre aux métiers et donc de travailler pour les métiers? Ou est-ce qu'au contraire, le job de la DSI, c'est d'être un peu l'agitateur technologique de l'entreprise? Et comment est-ce qu'elle pousse? Comment est-ce qu'elle pousse? Donc voilà.
Jean-Luc, on peut intervenir où on fait une séance de questions-réponses à la fin?
Moi, je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème.
Pierre-Antoine, tu veux?
Oui, j'avais juste une. Ça me faisait penser à une phrase d'Henry Ford qui disait si j'avais
Si,
demandé
j'avais.
ou attendu ce que voulaient mes clients, j'aurais dû faire des chevaux qui courent plus vite. Voilà.
Alors, je vais pas faire un cours de marketing maintenant, mais en marketing, il y a quand même une règle de base, c'est que le client ne sait pas toujours ce qu'il veut, quoi. Et donc,
Ben,
et voilà.
ouais. Moi, je voulais juste, pareil, un peu comme Yannir Pierre-Antoine, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est, et en plus en rentrant dans la culture d'entreprise, que je crois qu'il faut prendre en compte, j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'il y ait une zone d'interaction, alors après qu'elle soit portée par le métier ou plus portée par la DSI, pour que justement il y ait cette activation, oui, qui permet, à mon avis, l'émergence de ce mix besoin-réponse IT.
Ouais, on pourrait parler des parcours des directions métiers dans les DSI. On a beaucoup travaillé là-dessus. C'est en fait entre le moment où j'ai une problématique métier, une vraie problématique métier qui n'appelle pas de techno a priori, comment est-ce qu'à un moment, à quel moment on fait intervenir la DSI dans la résolution de cette problématique? Très souvent assez tard, en fait. Et parce qu'on a déjà vu des éditeurs, on a vu des pairs avec qui on dit, bah, tiens, moi j'ai mis ça en place, ça marche très bien. Donc, je trouve que c'est intéressant de se poser cette question-là. Généralement, cet espace d'interaction, il existe. La question, c'est à quel moment on rentre dedans? Est-ce qu'on rentre tard ou est-ce qu'on rentre dès le début? Et puis, l'espace d'interaction, c'est pour ça que cette étude, je trouve, est intéressante pour ça. C'est, en fait, est-ce que c'est… Enfin, qui amène l'idée, quoi? Qui amène l'idée? Après, on l'a fait ensemble, mais qui amène l'idée? Et puis il y a un camp aussi, mais bon, en tout cas c'est intéressant. Et donc ce que je vous proposais c'était de dire la moitié
Jean-Luc,
des gens.
Jean-Luc?
Ouais.
Ah oui, c'est Alain qui parle. Juste une petite réflexion d'acheteur. Dans les dernières phrases qui ont été dites, là, vous remplacez DSI par achat. Et c'est exactement la même chose.
Mais
C'est-à-dire qu'il y a
alors, en
aussi
fait,
une problématique.
je vais pas vous faire la vente de Talisker, mais en fait c'est le problème des fonctions support tout le temps. Et c'est vrai pour la direction innovation qui ont du mal à trouver une place, c'est vrai pour les directions financières, c'est vrai pour les directions achats, c'est vrai pour les DRH, c'est vrai pour les DSI. Et il y a toujours ce
Ah oui.
côté d'où ça vient, qui a l'idée, etc. Ça existe partout dans toutes les fonctions support parce qu'elles ne sont pas complètement sur la chaîne de valeur de l'entreprise et pourtant elles y participent vraiment. Donc mais c'est intéressant le positionnement des fonctions support et le marketing des fonctions support. Ne me lancez pas là-dessus, sinon je vous prends la grenouille. Véronique en sait quelque chose. Donc, juste un petit zoom sur l'intelligence artificielle parce que c'est la moitié des projets innovants qui ont été mentionnés. Ce qui est intéressant sur l'intelligence artificielle, c'est que le gros des projets, c'est du machine learning, en gros, des agents conversationnels parce qu'on est beaucoup en interaction client, et puis de la vision. Alors, c'est drôle parce que moi, j'ai travaillé dans de la robotique il y a très, très longtemps. Il y a 30 ans, on avait déjà des sujets de vision et on s'aperçoit que c'est toujours le cas. Et Dieu sait si ça s'est vachement amélioré, ce sujet-là. Bon. Et en fait, il y a deux catégories sur les projets d'intelligence artificielle, ceux qu'on travaille en interne et ceux qu'on achète à l'extérieur. Et en gros, c'est à peu près moitié-moitié. 55% des projets d'IA sont traités sous forme de lab, c'est-à-dire qu'en fait, on traite en interne, on bidouille au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on découvre, on apprend en jouant avec des technos qu'on manipule, en prenant des morceaux qui viennent en partie de l'extérieur, mais qu'on maîtrise vraiment. Et donc, on développe avec les équipes internes. Et là, en grande partie, ce sont des sujets de machine learning parce que tout le monde a à peu près, enfin, dans toutes les entreprises, ce sujet est applicable. Et puis, une petite moitié de ces sujets sont des sujets de vision. Et on a beaucoup de choses autour de soit de la qualité, soit de la sécurité des personnes. C'est un gros sujet pour les entreprises de mettre de l'intelligence artificielle en prévention des accidents du travail, par exemple. Donc, ça, on retrouve ça, bien évidemment, comme toujours, la vision beaucoup plus dans les structures industrielles que sur les entreprises purement tertiaires. Bon, en tout cas, la moitié de ces projets sont des projets qui fonctionnent en lab. Et donc, on bidouille ensemble, on découvre ensemble. Ça a une vraie vertu pour nous, c'est que Véronique parlait de zone de travail entre la DSI et les métiers. C'est un super terrain de jeu, l'intelligence artificielle, parce que ça interroge vraiment des sachants métiers et ça interroge de la technologie. Et pour le coup, même si ça n'aboutit pas à grand-chose, le simple fait de touiller ensemble, désolé le terme un peu technique, mais le simple fait d'expérimenter, ce sera mieux, ensemble, bah c'est un espace de collaboration qui est vraiment riche, qui est vraiment intéressant. Bon. Et une petite moitié sont des services packagés, c'est-à-dire que pour le coup, on achète du fonctionnement à l'extérieur. Et là, on est beaucoup dans des sujets de business case, c'est-à-dire qu'on achète un agent conversationnel, j'étais en train de chercher le mot anglais, on achète un agent conversationnel, on lui apprend un peu les choses et globalement, ça permet de remplacer une partie de notre relation client et donc de gagner de l'argent. Donc, on a des sujets business très, très, très volume. C'est aussi intéressant comme démarche pour les métiers parce que ça leur permet vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'attendent nos clients, qu'est-ce qu'on doit leur répondre, à quel moment, et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est à quel moment ça a de la valeur, et donc on bascule dans un sujet qui est vraiment humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait traiter au robot et qu'est-ce qu'on ne fait pas traiter au robot? Et ça, en termes d'approche technologique, c'est un vrai angle digital qui est de dire, plus on fait de digital, plus ce qu'on fait en humain a de l'intensité. C'est-à-dire qu'en fait, on va traiter le remplacement de mot de passe ou l'information simple par un robot. Et en revanche, dès que ça devient un peu compliqué ou dès que c'est un sujet, on a beaucoup vu ça dans les assurances. Dans les assurances, les gens qui appellent ont généralement des problèmes. Soit ils ont perdu un proche, soit ils se sont fait cambrioler, soit ils ont eu un accident de voiture. Tant qu'on est dans quel est le numéro que je peux appeler, ça peut être un robot. Dès qu'on est dans des choses un peu plus perso et un peu plus avec un peu plus d'affect, faut basculer dans l'humain, bien évidemment. Donc, c'est intéressant de travailler sur ces agents conversationnels et sur ces limites, en fait. Voilà. Et puis, on trouve beaucoup d'API autour de la traduction, et donc qui sont des briques qu'on ajoute au système d'information et qui amènent, au travers d'intelligence artificielle, des choses toutes faites. Ça, vous en avez vous en avez de plus en plus qui sont quasiment des briques sur étagère que vous pouvez aller chercher, qui peuvent être y compris des sujets de navigation et des choses comme ça. C'est assez facile. Donc, je ne voulais pas vous bombarder de chiffres. Donc, il est 19. Je termine juste sur deux questions, en fait. C'est 80% des interviewés ont au moins un projet d'IA en cours. Et vous? Et c'est ça la question pour lancer le débat. Et 63% des projets sont en market pool, donc demandé par les business. est-ce que c'est normal? Parce que j'aime bien ce débat. Voilà. Je vous laisse réagir et me poser des questions. Il y a 70 pages sur l'étude, je vais vous mettre le lien. Il y a 70 pages sur l'étude. Donc, je ne suis pas sûr de répondre à tout, mais je vous laisse réagir, poser des questions. Vous êtes surpris ou vous n'êtes pas surpris? Vous êtes dans le panel ou au contraire, vous êtes un peu à côté? Dites-moi.
Bon, allez, je me lance.
J'ai peur.
Donc moi, je travaille dans le secteur du service, donc l'assurance. Alors, effectivement, on est dans les 80% par rapport à l'IA. Alors, parce qu'on a, beaucoup de data nativement, parce que notre métier, c'est du traitement de la data. Et parce que je ne sais pas quoi d'autre, parce que nos processus peut-être aussi, mais là peut-être que d'autres participants pourront rééclairer, on va dire, ma question. Je pense que nos parcours s'y prêtent bien dans cette logique à la fois d'automatisation et, je dis bien, et d'apport de valeur pour le client. Sur les 63%, j'avoue que nous, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que, mais parce qu'on a, une DSI qui est très, très métier, on va dire. Et donc, si j'ose dire, ça cogite beaucoup sur le volet opportunité techno. Et ça vient taper à la porte des métiers en leur disant « si on pouvait faire ci, si on pouvait faire ça, enfin voilà, etc. » Un peu dans une logique de lab ou au détour d'un projet ou d'une évol en disant « si on prenait le truc autrement et voilà. » Bon, alors après, la difficulté que ça peut porter, c'est qu'on se retrouve des fois avec un peu trop de techno différentes et on est obligé de recentrer les sujets. Voilà.
Ouais, effectivement, c'est bien quand. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise, effectivement, et puis du positionnement de la DSI. Donc, il n'y a pas de mauvais ou de bon positionnement. Mais en tout cas, ça nous a beaucoup intéressé, nous qui travaillons sur le positionnement des DSI, ça nous a beaucoup intéressé de savoir est-ce que. Et on a de grands débats quand on le présente avec des DSI qui disent mais c'est normal, la DSI est au service des métiers, donc c'est normal que ça vienne, que les idées viennent des métiers. Voilà, est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je trouve que je trouve ça super, je trouve ça assez intéressant comme débat en tout cas. En tout cas, c'est une bonne question à se poser dans les entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres questions à cette étude?
Oui, bonjour. Véronique Milsan du groupe ADECO, je me permets d'intervenir. Chez nous, je dirais que c'est sur le premier point, nos projets d'IA, ils sont globalement déjà faits. En revanche, sur le deuxième sujet, c'est assez intéressant. Moi, je dirais qu'on est entre les deux parce qu'on part de besoins marchés globaux, mais on source beaucoup de start-up qui finalement nous amènent des technologies auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Ouais. Et qui, donc, c'est un peu entre les deux. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que dans les start-up, on trouve des choses incroyables, enfin des solutions vraiment innovantes et on travaille beaucoup dans cet axe-là désormais, plutôt qu'en développement pur. Interne.
Ouais, je trouve que c'est intéressant. Nous, on a une approche comme ça de dire, je pense que c'est le job des DSI d'aller sur des salons métiers avec les métiers pour dire, voilà ce qu'il y a. En ce moment, il y a Vivatech, par exemple. Je trouve que c'est intéressant d'emmener des métiers, des DG à Vivatech, juste pour voir un peu comment ça bouillonne. Vous dites, les startups, c'est incroyable, les idées qu'il y a là-dedans. Il y a quand même des types, de temps en temps, qui vont adresser des problèmes qu'on n'imaginait même pas. Donc, je trouve que c'est super intéressant, ce bouillonnement est super intéressant.
Exactement.
Voilà, donc, et je pense que c'est le job de la DSI d'être un peu l'entremetteur technologique, quoi, le marieur technologique là-dedans. Et ça, je trouve ça plutôt sympa.
Exactement, mais c'est vraiment une des raisons aussi pour laquelle on a beaucoup insisté et travaillé là sur Innovadera pour qu'il y ait plus de ponts, plus de passerelles, en fait, hein, entre nos entreprises et nous, on a effectivement beaucoup comme référent les directions informatiques, digitales, etc. Et d'aller pouvoir rencontrer justement des startups, pas forcément pour imaginer des relations business immédiatement, bien sûr, mais au moins ne serait-ce qu'avoir cette vigilance, cette attention sur des innovations techno qui peuvent être poussées par des startups et ouais. aussi s'approprier les aspects culturels. Hein. Tu parlais tout à l'heure d'innovation non technologique sur l'agilité ou ce genre de choses. Bon, bah, il se trouve que les startups ont quand même aussi beaucoup de marqueurs ou en tout cas beaucoup de modes de fonctionnement qui parfois sont à redire, c'est sûr, mais qui viennent quand même pas mal chambouler les habitudes. Et quand une entreprise, j'imagine par exemple quand Adeco décide de travailler avec des startups, bah, forcément, il y a une adaptation très, très forte à avoir pour pouvoir collaborer, changer des pratiques, ne serait-ce que pour déjà contractualiser avec une start-up. C'est déjà parfois pour les grands groupes.
Oui, ce n'est pas simple.
Donc,
c'est pas simple.
Et, il y a des process assez différents, on va dire.
Oui, mais il y a des rythmes de vie. Et puis les start-up
sont des rythmes de vie différents, oui.
Il y a des Et culturellement, c'est quelquefois assez compliqué parce que les startups sont de plus en plus frileuses sur les collaborations avec les grands groupes parce qu'elles savent que ça va être long. Elles savent. À une époque, elles allaient y chercher de l'argent. Aujourd'hui, il y a de l'argent un peu partout, donc elles ont moins de problèmes là-dessus. Et le problème, c'est que les grands groupes sont souvent assez chronophages parce que c'est pas rapide, c'est chronophage, et donc elles ont du mal à travailler avec. Avec les grosses boutiques. Donc, le choc des cultures est assez intéressant. Mais en fait, on peut approcher le monde. On peut approcher simplement le bouillonnement des startups. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Je discutais il y a quelques mois avec Ludovic de Courcelles, qui était le DSI de Bonduelle, et qui disait, j'ai emmené mon patron au CES. Et Bonduelle, ils font des petits pois, quoi. Enfin, sans être réducteur, ils font des petits pois. Et donc, on est un peu loin du CES. Et pour autant, le DG était revenu... enchanté parce que enfin juste on est dans une espèce de centrifugeuse technologique où il y a des innovations dans tous les sens et on se dit on peut pas rater ça quoi. Enfin, en fait on voit la dimension tech company et on se dit on peut pas rater ça. En tout cas ça sensibilise vraiment au fait que il y a de la techno partout et que ce monde il est ultra énergique. Et je trouve que ça tranche un peu avec le côté plan pluriannuel de nos entreprises et le côté très gouverné et prévoir, quoi. Donc, je trouve que c'est culturellement assez intéressant d'amener les métiers et les DG là-dedans.
Je pense que votre intervention, elle est particulièrement vraie sur Bonduelle. Ça vient aussi par l'évangélisation des COMEX.
Ouais.
Les faire venir toucher du doigt un certain nombre de choses parce qu'ils sont souvent très très éloignés.
Oui.
Pas tous, bien entendu, hein, mais.
Le niveau digital, le niveau digital des COMEX est très faible, on le sait. Et pour autant, ils ont un vrai appétit, ils ont une vraie curiosité. Et dans toutes les entreprises aujourd'hui, il y a des sujets de. Et surtout post-Covid, hein. Il y a des sujets de business model, il y a des sujets de c'est quoi l'apport de la technologie dans notre monde. Et c'est facile de faire des learning expeditions, d'aller voir des… Ben, il y en a, c'est pas la peine d'aller… il y en a en Belgique, il y en a en France, vous pouvez aller à Saclay, il y en a à Grenoble, il y en a partout, quoi. Et donc, on n'est pas obligé d'aller en Californie pour aller voir des startups. Donc… Et je trouve que c'est un moment vraiment intéressant à faire avec les DG, d'aller passer une journée à discuter avec des types en Bermuda qui semblent tellement loin de nous, mais qui pour autant sont assez inspirants. Et puis voilà, ça se fait pas, peu importe. Mais culturellement, je trouve ça très, très intéressant. Je fais ça pour un de mes clients en ce moment où on fait de l'acculturation des managers dans le monde entier. Et donc, on a des startups. On a une startup qui est en Norvège, mais avec le pôle technique qui est en Corée. Enfin, je veux dire, il y a des, enfin, voilà, on trouve des trucs quelquefois qui sont un peu incroyables. Et je trouve ça assez bouillonnant, quoi. C'est-à-dire qu'on va, sur une heure faire trois pitchs d'une boîte. Il y en a une qui est à Stockholm et donc à Séoul. On en a une qui est en Californie et une qui est, je crois, en Israël. Ben, voilà. Et en une heure, on est capable d'adresser à peu près le monde entier pour… je trouve ça intéressant. Voilà.
Pour revenir sur le cadre de l'étude, sur le panel des entreprises qui ont été interrogées, est-ce que vous avez pu percevoir vraiment des grosses différences entre un grand groupe, une ETI, et sur la manière de s'approprier certaines technos particulièrement?
Non, non, pas tellement. Alors, il y a des innovations qui sont liées à des industries. Je parlais tout à l'heure de la vision. Bon, typiquement, la vision, on retrouve ça un peu plus dans l'industrie parce que historiquement, c'était là. Et puis parce que on est dans du matériel, quoi. C'est-à-dire, dans l'assurance, la vision a peu d'intérêt. On serait plutôt dans des trucs d'OCR, par exemple. Mais, donc, il y a des innovations qui sont plutôt liées à des industries. Mais dans l'approche, on n'a pas vu une vraie différence entre des grands groupes. Alors, à la vitesse près, hein. À la vitesse près, mais on n'a pas vu de différence entre des grands groupes et des ETI. On n'est pas descendu dans les petites entreprises. Mais on a fait grand groupe ETI et on ne voit pas une vraie différence. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Je vais vous mettre également, je vais faire le PDF, je n'ai pas fait le PDF pour les slides, je vais vous le mettre en téléchargement, en... Juste arrêter le diaporama tout de suite et je vais arrêter le partage. Je vais juste créer le PDF et je vous mets le lien.
Comme ça, oui, je vois notamment Gaël de Renault Trucks. La dernière fois, justement, on avait fait avec Julien, dans le cadre du groupe Veille Techno, ce petit benchmark aussi. On voyait que chez Renault Trucks, il y avait quand même un niveau d'avancée techno et d'innovation qui était super poussé et même une organisation très, très orientée vers ça. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit mot aujourd'hui de la manière dont vous gérez l'innovation et aujourd'hui, quel peut être un peu le centre de secret, bien sûr, les préoccupations.
Oui, bonjour, Gaël de l'Escaille. Désolé, c'est plutôt Julien qui est sur cette partie innovation. Moi, j'étais là plutôt en tant que spectateur aujourd'hui. Je sais qu'il y a pas mal de choses sur la réalité virtuelle, notamment Bertrand Félix qui mène des projets dans le cadre de la ruche industrielle. Voilà, et donc ce genre de choses. Sur la partie IoT, c'est vraiment Julien qui on a des choses aussi, des sujets qui avancent dans les usines. Et c'est plutôt Julien qui tire ce sujet-là. Donc, je suis désolé, je ne pourrais pas très bien vous faire de réponse concrète.
Ok, non, pas de souci. Justement, voilà, on avait discuté avec Julien, entre autres, des aspects blockchain, où aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises, on s'interroge. Et voilà, pour le prochain groupe de travail blockchain, par exemple, enfin Veille Techno, pardon, je suis allé à la recherche de cas d'usage, eh bien, c'est quand même compliqué. Des cas d'usage et des entreprises aujourd'hui capables de témoigner sur des cas concrets mis en production, c'est très, très compliqué.
Ouais. Je n'en connais pas effectivement.
Ouais. C'est un vrai sujet de valeur. Il y a très peu de... Alors, en fait, intellectuellement, la blockchain est vraiment intéressante pour en tirer quand même quelques euros, parce que ce serait légitime, ça devient un peu plus compliqué. J'ai beaucoup de clients qui ont des questions sur le métaverse aussi.
Ouais. Voilà, Vivatech, là, c'est à fond métaverse hein, quand on regarde les interventions. Ouais.
Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres innovations là récemment. Et puis que les 2 ans qu'on vient de passer nous ont familiarisés avec le à distance. Et,
virtuel.
Et là, on commence à trouver des expérimentations qui sont drôles. Dans mon monde des spiritueux, parce que je baigne un peu dedans en ce moment, il y a quand même des boîtes qui ont envoyé, alors ce n'est pas le cas de mon client qui continue à se poser la question, mais il y a des boîtes qui ont envoyé des commerciaux dans le métaverse. Donc, en fait, il y a des types qui ont un avatar qui font la promotion d'un produit à d'autres avatars en espérant que le type physique qui est derrière l'avatar achète le whisky en question. Et voilà, je trouve ça intéressant. Voilà, il y a plein de marques de luxe qui sont... Qui sont là-dedans. Et c'est intéressant parce qu'il y a quand même une maturité des jeux vidéo, par exemple, qui est extrêmement forte sur la réalité virtuelle. Donc, maintenant, on va être dans un sujet kinesthésique, qui est comment est-ce que je le vis, quoi. Comment est-ce que j'arrive à marcher. Par exemple, il y a un truc qui est tout bête, hein, c'est que il y a assez peu de solutions qui nous permettent de marcher pendant 3 km sur place dans un jeu. Voilà, et dans les jeux on marche beaucoup, donc comment est-ce qu'on fait pour se déplacer? Parce que je ne sais pas si vous avez vécu tous des salons virtuels où tout le monde a un avatar. J'ai fait ça avec une ESN il y a début de Covid. Et c'était amusant parce que tout le monde avait son avatar et il y avait un petit côté « promenez-vous dans le salon comme si vous étiez… » Et en fait, vu que personne n'arrivait à manipuler correctement son avatar, on avait l'impression dans les allées qu'il n'y avait que des types bourrés qui se promenaient, qui se tapaient les autres. Ça donnait une espèce de sensation assez lunaire, en fait. Voilà, donc c'était amusant. C'était amusant. Et voilà, on découvre. Hein, moi, je le voyais comme un lab. Donc, je vous ai mis le lien et pour le téléchargement de l'étude, 70 pages. Voilà, il y a tout. Et puis, je vous ai mis un lien vers les slides présentés aujourd'hui.
Merci beaucoup, Jean-Luc. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou commentaires, surtout aussi ?
Oui, n'hésitez pas.
Donc moi j'en profite, je fais toujours des petites pages de pub, de plus en plus, excusez-moi, mais parce qu'on parle quand même énormément de ces sujets-là dans un grand nombre de groupes de travail, et notamment voilà, si vous avez des collaborateurs qui aujourd'hui sont concernés ou travaillent sur les sujets d'intelligence artificielle, donc on refait partir notre groupe IA qui va s'adresser, enfin en tout cas se concentrer sur l'industrie 4.0 pendant les trois prochaines sessions, avec la partie contrôle qualité, tu parlais de vision tout à l'heure, la partie maintenance prédictive, et puis ensuite l'amélioration de la performance opérationnelle. Donc, n'hésitez pas, si vous-même ou des collaborateurs sont intéressés par des sujets, à les pousser dans ce groupe-là. Idem sur la partie veille techno, bon, ça j'en ai déjà parlé, sur le sujet blockchain, avec un mode de fonctionnement stoop encore, justement, on verra bien si on a suffisamment d'éléments, de cas d'usage concrets pour continuer d'en discuter d'une session sur l'autre. Et puis, si on estime avoir fait le tour du sujet et peut-être arriver à des conclusions plus ou moins positives, je ne sais pas, on ne peut pas le prétendre aujourd'hui, eh bien, on changera éventuellement et le second sujet sera sur le métaverse, justement. Donc, on va se concentrer ensuite dessus. Sinon, il y a quand même beaucoup d'autres groupes de travail aujourd'hui qui traitent d'un certain nombre d'innovations. Véronique, qui est parmi nous, travaille aussi dans le cadre du groupe Prospective. Aujourd'hui, on a une approche plutôt par métier. On parle actuellement de la médecine du futur. Et donc, de fait, on aborde un certain nombre d'évolutions technologiques qui vont venir bousculer ces métiers-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est plutôt sur c'est la santé pour être plus global. Donc, n'hésitez pas à pousser des collaborateurs dans ces groupes-là parce que c'est vraiment extrêmement intéressant.
Jean-Luc, il y a une question là.
Oui, j'ai vu la question. Voilà. Juste une seconde, parce que je me fais virer de ma salle, ce qui arrive quand on est squatteur, on se fait virer. On a un vrai problème avec les ESN sur l'innovation. Et on a un problème de motricité des ESN sur le sujet. C'est que généralement, les DSI impliquent peu les ESN parce que les ESN ont peu d'offres sur l'innovation. Structurellement, ce sont des entreprises qui répondent beaucoup à la demande, ils sont très market pool pour le coup, et pas vraiment techno-push, alors qu'ils ont un terrain de jeu incroyable, mais les ESN sont assez rarement des innovateurs. Donc, excusez-moi, je vous fais participer à mon déménagement. Excusez-moi.
Okay. Vous êtes en live.
Je confirme le Hub 612 a beaucoup de succès. Voilà. Donc oui, les ESN sont peu impliquées parce que simplement elles ont. Elles sont peu innovantes là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous l'expérimentez, vous, mais...
Allô ?
Ouais.
Oui. Excusez-moi, vous m'entendez ?
Oui, c'est bon.
Oui, pardon. Je suis désolé. Effectivement, j'avais un problème de micro. Donc, je suis directement concerné parce que je suis responsable innovation au sein d'une ESN, donc c'est aussi pour ça que je posais la question. Effectivement, voilà, c'est un petit peu le constat aussi qu'on fait, où on est peu sollicité par rapport à ça. Il faut souvent faire du push, bien qu'on crée des relations et un écosystème. On a des clients, on peut avoir des clients grands comptes qui ont bien évidemment des équipes R&D ou une innovation beaucoup plus importante que les nôtres. Hein. Ça dépend évidemment aussi de la taille de l'ESN, du client. Mais effectivement, on est très peu sollicité. Donc, est-ce que c'est un défaut de... Alors, au-delà du modèle de business, je pense qu'il y a un vrai défaut d'image de ce point de vue-là.
Alors, je pense qu'il y a un peu de défaut d'image. Et puis, je pense qu'il y a un sujet surtout de contractualisation. Enfin, pour l'avoir vécu, hein, j'ai beaucoup travaillé en ESN. Il y a un sujet qui est, on met toujours de l'innovation dans les contrats parce que ça apporte de la valeur. Si ce n'est qu'au moment de la négo, en fait, on se retrouve à rogner un peu le contrat. Et du coup, ce qui part en premier, ce n'est pas le delivery cœur du sujet. Ce qui saute assez rapidement, c'est l'innovation. Et malheureusement, encore une fois, malheureusement. Mais je pense qu'il y a encore une fois, on est beaucoup dans les ESN travaillent pour, elles ne travaillent pas avec, quoi. Et donc, il y a un cahier des charges, on répond. Et il y a un côté très encadrant de ça. Il y a peu d'ESN qui arrivent en disant je vais retourner la table et je vais changer ton business model. Donc, je comprends votre désarroi.
Tout à fait, mais effectivement, voilà, il y a des. C'est pas forcément effectivement toujours facile d'être impliqué dans ces contextes-là ou de faire ne serait-ce que le lien avec aussi des startups de ce point de vue-là pour par exemple industrialiser, passer à l'échelle, aider les DSI aussi dans ces contextes-là en étant déjà embarqué, on va dire au plus tôt.
En fait, il faut créer des écosystèmes à côté d'innovation et des communautés de gens qui sont prêts à entendre ça. Mais il faut le faire, à mon sens, il faut le faire en parallèle des circuits standards des ESN qui sont quand même très dans le commercial va chercher les besoins et il ramène et on répond. Et le client, lui, il y a rarement un cahier des charges. D'abord, il exprime des solutions et pas des problèmes. Ça, c'est il y a un point côté client là-dessus. Et rarement, le cahier des charges, c'est ébouriffez-moi un peu, quoi. Voilà mon problème, ébouriffez-moi. Généralement, c'est faites-moi une solution qui marche et qui soit pas chère. Donc, je pense que c'est un autre angle d'attaque des ESN. Mais c'est super intéressant. Je serais ravi d'en parler avec vous. J'ai plein d'idées sur le sujet.
Très bien, merci.
Écoutez, merci beaucoup à tous. Un grand merci, Jean-Luc, pour cette présentation.
Et donc, merci à vous.
On a le lien, on a tous les éléments.
Vous avez tous les éléments, n'hésitez pas.
Rendez-vous dans quelques minutes dans les autres groupes de travail marketing digital. En parallèle.
Je prends un café, j'y vais.
HIT, voilà, il faut trouver une salle. Et puis
non, c'est bon, là, j'ai une salle qui est réservée. C'est juste qu'entre 9h30 et 10h, je n'ai pas de salle. Donc, j'ai été viré.
Rendez-vous ce soir donc, pour notre assemblée générale. Nous attendons.
Merci à toutes et tous. Merci beaucoup.
Allez, bonne journée. À très bientôt.
Bonne journée.
Merci. Au revoir, merci.
Bonne journée.
Au revoir.